Bonjour à vous. Je me retrouve toute seule devant un micro avec mes feuilles. Comme je me réjouis de vous partager une deuxième réflexion autour du jugement dernier, je pense que ça va aller. Comment vous dire? Non seulement j'ai demandé un deuxième espace de parole après mars dernier qui m'a été accordé, mais ce sera à nouveau un peu longuet. Je crois que sans m'en apercevoir, dans mon enthousiasme, j'ai passé de la prédication à la conférence. Remarquez que vous pouvez très bien l'écouter en deux fois. Et puis, on prendra le temps qu'il faut. Ne vous affolez pas sur la durée du temps affiché. Des pauses musicales y sont incorporées. Vous voici préparés, installez-vous. Prévoyez peut-être un bon café et une aspirine, parce que ce sera assez dense. Dans une première approche intitulée « Avant le paradis », nous avons pu découvrir, contre toute attente, que la perspective du jugement dernier fait partie des bonnes nouvelles et trouve sa raison d'être dans le projet de Dieu pour l'homme. Une bonne nouvelle car, dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Après un survol sur ce jugement, nous allons plonger dans les textes parce qu'on peut se trouver pris au dépourvu devant les quelques paraboles de Jésus qui parle du jugement dernier. On n'aimerait pas se retrouver sous la menace et dans la peur. Il y a comme un malaise. Comment les appréhender et les incorporer dans cette vie nouvelle proposée par Jésus? J'ai intitulé ce message « Tout près du paradis » car nous allons peut-être trouver une des clés qui entr'ouvre une porte pour nous en donner un avant-goût. Qui sait? La parabole. Une histoire racontée, simple en apparence, dont le sens caché est à décoder, à décrypter. C'est astreignant, parfois décourageant, mais toujours passionnant et salutaire, parce qu'en tâtonnant, on est en mode éveil, aux aguets du moindre indice, et on découvre des trésors. Pour nous faciliter la vie, nous avons la chance d'avoir à notre disposition de nos jours des recherches de spécialistes. Ce qui n'était pas le cas pour les disciples, qui parfois demandaient une traduction à Jésus. Ceci ne nous empêche pas pour autant de réfléchir, de laisser la parole descendre en nous et la laisser mûrir. La parabole est et doit rester un espace ouvert qui dit quelque chose à chacun, parfois différemment. L'esprit souffle où il veut. Je vous partage ici comment l'une d'elles m'a parlé. Il s'agit d'une interprétation parmi d'autres, elle n'est pas exhaustive. Juste en passant, on peut se demander pourquoi Jésus a parsemé son enseignement de paraboles. Je dirais, imaginez qu'un ami, qui sait que vous aimez les puzzles, vous apporte une boîte de 1500 pièces en vous disant « C'est un cadeau pour toi. Il est assez difficile, tu sais. Moi, je le connais. Allez, je vais le faire à ta place. » Qu'est-ce que l'image vous apportera une fois reconstituée sous vos yeux ? Et vous aurez encore la tristesse de vous dire que votre ami vous jugeait incapable de la réaliser. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons nous pencher sur la parabole bien connue des talents dans Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je pense que c'est bien si vous gardez le texte sous les yeux. Si on devait la résumer en une phrase, on dirait quelque chose comme « C'est la parabole où un riche propriétaire vient faire ses comptes avec ses serviteurs après leur avoir demandé de faire fructifier ses biens pendant son absence. » À comprendre, il faut mettre les talents, parce qu'on fait le jeu de mots avec la monnaie de l'époque, il faut mettre les talents que Dieu nous donne à son service et ne pas les cacher. Je pense que l'expression « avoir des talents cachés » provient de là. Oui, pourquoi pas, j'aime bien cette image. Mais je me suis heurtée pendant des années sur la fin abrupte et déconcertante. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Quand on bute sur un passage, c'est là qu'il faut creuser en général, trouver une autre entrée, retourner aux sources, car on dit « traduttore, traditore ». Allons-y avec la loupe et la lampe frontale. Ce sera un peu ardu, je pense, mais ça en vaut la peine, vous verrez bien. Nous allons être attentifs au choix des mots et aux anomalies de l'histoire. Il en sera comme. Allusion avec l'utilisation du futur au jugement dernier. Le maître étant Dieu, je crois que nous sommes tous d'accord avec cette interprétation. Il appela. Appeler l'autre, c'est éveiller un sujet. Celui qui appelle prend l'initiative de la relation. Il remit ses biens, livra ses biens, confia ses biens, selon les traductions. Une surprise de taille nous attend ici. Littéralement traduit du grec, on arrive à ceci. Remettre, comme un roi remet, transmet le pouvoir à son fils. C'est donc une passation de biens sans reprise. Dans une relation de maître à serviteur, c'est une anomalie qui fait sauter le cadre. Cette première découverte change tout et va faire basculer tout le contenu de la parabole. Nous pressentons déjà que nous serons confrontés à un renversement de valeurs propre à Jésus. Souvenons-nous comme il a déclenché consternation et incompréhension autour de lui, même chez ses disciples avec des phrases comme « Il vous a été dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, les premiers seront les derniers, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur, celui qui veut gagner sa vie, la perdra, la sagesse des hommes est folie pour Dieu, etc. » Nous allons garder cet éclairage nouveau et nous allons voir où il nous mène. Un talent, c'est 6 000 deniers. Un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier ou d'un soldat à cette époque. Pour se faire une idée, un talent représente environ 17 années de salaire. Les sommes sont démesurées. Pourquoi ? Autre anomalie. Remarquons ici qu'il ne leur demande rien. Aucun ordre à exécuter, aucune mission à remplir n'accompagne ce geste. Il ne prête pas, Il ne confie pas ses biens avec l'idée qu'on les lui restitue avec un bénéfice, comme on le comprend habituellement. Le maître a ce geste inouï et insolite, il donna. Et il donne à chacun selon sa capacité ou sa propre force. S'il est question d'un don, il s'agit alors de la capacité à recevoir. C'est inégal. Inégal peut-être comme les jours qui nous sont donnés à chacun de vivre, comme notre aspect physique, comme nos caractères. C'est inégal, mais ce n'est pas injuste. Et il partit. C'est le temps de la liberté hors surveillance pour les serviteurs pour un temps indéterminé, comme le temps que nous avons à disposition. Nous avons le temps, mais le temps est compté. Il les fit valoir. Littéralement, il œuvra en eux. Il œuvre avec, il en fait quelque chose. Il crée. Comme il n'y a aucun ordre à suivre, on est dans l'initiative personnelle. Il alla faire un creux dans la terre. Étrange endroit. Sauf si l'on sait qu'à cette époque et dans cette culture, le dépositaire d'un bien n'était pas responsable en cas de vol s'il avait enfoui dans la terre. Ce serviteur a joué la carte de la prudence en ne prenant ni risque ni responsabilité. Il cacha l'argent de son maître. Il n'a pas saisi, et les traducteurs visiblement non plus, qu'il s'agissait d'un don. Il ne réalise pas qu'il en est le destinataire parce qu'il ne croit pas le don possible dans le clivage maître-serviteur, créateur-créature. Il a compris que cet argent appartient à son maître, il lui est donné à garder, et un serviteur dévoué et obéissant, il le garde. Il leur fit rendre compte. Il régla ses comptes avec eux. Une autre surprise nous attend. Réfléchissons. Si les chrétiens doivent faire fructifier les talents que Dieu leur donne, cette parabole ne révèle rien de particulier. Quoi de plus banal qu'un maître qui donne des ordres à ses employés pour agrandir sa fortune, qui règle les comptes avec chacun et congédie celui qui ne rapporte rien. Dans cette configuration, le chrétien reste serviteur à jamais, d'un Dieu maître à jamais. Et ce lien de filiation alors, quand on dit « notre Père qui es aux cieux », que devient-il? Le texte grec dit littéralement « le maître lève ensemble ». Il rassemble avec les serviteurs. Cela ne correspond pas du tout à la traduction « il régla ses comptes avec eux ». Il leur fit rendre compte est la traduction la plus fidèle. Mais, et c'est du français maintenant, « rendre compte » ne signifie pas « rendre des comptes », mais raconter, faire un récit de ce qui s'est passé. Avec ce nouvel angle de vue, observons qu'effectivement, le serviteur ne restitue rien. Il montre les 5 talents qu'il a gagnés. Il n'arrive pas devant le maître avec les 10 talents pour les lui rendre. Nuance. Ce qu'on a découvert jusqu'ici tient la route. Poursuivons. Fidèle. À comprendre comme fiable. Fiable dans la bonne compréhension du don. À celui qui est fiable, on peut évidemment confier beaucoup. En peu de choses. Autre anomalie, puisqu'on a vu que les sommes étaient énormes. Je te confierai beaucoup. Si le peu représente déjà beaucoup, comment imaginer le beaucoup? Ces mots choisis par Jésus ne sont-ils pas en train de nous sortir de ce qu'on peut se représenter en bien matériel? Qu'est-ce qui est hors de prix? Un verset me revient. Dans Matthieu 16, 26. Que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qui n'a pas de prix sinon la vie? Entre dans la joie de ton maître. Que vient faire la joie du maître ici? C'est le genre de détail qui n'a rien à voir dans l'histoire si l'on reste dans les contes purs et durs. Encore une anomalie. Par contre, quelle belle invitation, quel honneur de partager la joie du Dieu Maître lorsque le croyant serviteur a bien reçu le don de la vie nouvelle. C'est ainsi que nous pourrions comprendre maintenant si bien démesuré. Je crois que nous touchons un point essentiel du passage de la mort à la vie évoqué dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il semble bien que ce passage ait lieu lorsque nous sommes dans la capacité, je reprends le même mot, dans la disponibilité de recevoir le don de la vie nouvelle. C'est un grand saut, une conversion qui nous fait passer de notre logique humaine à la logique de la gratuité et de la grâce. La vie nouvelle en Christ ne se gagne pas, ne se mérite pas, elle se reçoit. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, venu lui poser cette question. Jean 3, 1 à 10. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aimerais apporter une précision. Nous fonctionnons, il me semble, selon trois logiques. La logique de l'avoir, nous cherchons à accumuler des biens pour combler nos besoins, pour vivre confortablement. La logique de la rétribution, tout travail mérite salaire, un effort ou un exploit mérite une récompense. Et la logique de la réciprocité, c'est le donnant-donnant qui permet une justice et un équilibre, ou le œil pour œil, dent pour dent, qui évite l'escalade de la violence. Ces trois logiques ont leurs dérives, bien sûr, mais elles gèrent nos rapports humains. La logique du don et de la gratuité ne vient pas remplacer les autres, elle s'y ajoute et vient les bousculer. C'est le grain de sable dans les rouages, le déséquilibre dans la conception de nos échanges. Elle nous oblige à changer de regard, à voir autrement. Le geste de Dieu déstabilise, d'où la difficulté parfois d'y entrer, de recevoir sans contrepartie. Recevoir et s'approprier le don. Nul ne peut le faire à notre place. À chacun d'y répondre, d'ouvrir le cadeau et de le faire sien. Recevoir la nourriture ne veut pas dire être nourri. À chacun de la mâcher et de la digérer. Regardons dans le texte comment cette appropriation se fait de manière subtile, simple et rapide. Le « tu m'as remis » déclenche immédiatement une réponse en un « je » présent et responsable. « J'en ai gagné ». Avec un « tu » et un « je », nous sommes en pleine relation, une relation que Dieu a initiée. La réponse est instantanée, elle coule de source pour ce serviteur. Il est réceptif. Pour le deuxième serviteur, on retrouve exactement la même scène, les mêmes paroles, alors qu'on a bien compris la première fois. À quoi cela sert-il de répéter la séquence mot pour mot ? Seul petit changement, le nombre de talents. On s'arrête là-dessus. 5 plus 5 égale 10, 2 plus 2 égale 4. Dans une logique de la rétribution, Le premier est plus performant que le deuxième. Il mériterait un plus significatif. Pour le maître de la parabole, cela ne fait aucune différence. Ils sont égaux du moment que chacun s'est approprié le don et a œuvré jusqu'à ce que le fruit égale le don reçu. À partir de l'instant où nous avons été capables de recevoir le don et de répondre avec notre « je » sujet, cette notion est très importante, conscient de notre existence propre, à partir du moment que nous avons compris comment faire quelque chose de bien et de bon, de notre propre initiative et non en simple exécutant, nous partageons la joie de notre Dieu. Nous entrons dans la cour du roi comme héritiers du royaume, fils et filles du Père. Nous voici tout près du paradis. Jésus à ses disciples dans Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et dans 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous reste à élucider la fin énigmatique. Dans une lecture de survol, on se demande ce que ce troisième serviteur a fait de faux. Il était moins capable que les autres. On n'est pas tous pareils et le maître en a tenu compte. Il a eu peur. Ça n'est pas répréhensible en soi, c'est humain. Il n'a pas saisi que cette somme, il l'avait reçue. Ça peut arriver de comprendre de travers. Il a conservé le bien et le restitue. Il est resté très honnête. Nous pouvons assez bien nous identifier à ce serviteur. La réaction du maître n'en est que plus forte. Sa réponse est inattendue et dure. Autre anomalie. Et le serviteur est purement et simplement congédié, pire encore, éliminé sur le champ. Rappelons qu'une parabole ne parle pas d'une histoire vécue. Elle dit quelque chose d'important qui ne saute pas aux yeux à première vue. La parabole est déjà tellement riche d'enseignements jusque-là. Pourquoi ajouter un troisième serviteur qui de plus vient faire ombrage au tableau? Dès lors que nous sommes sortis de la compréhension « Mets tes talents au service du Seigneur et ne les cache pas, sinon tu finiras mal », nous devons trouver autre chose, car nous ne voyons pas de lien avec le don. Continuons à creuser. Examinons comment ce serviteur s'exprime. Seigneur, comme les autres. Mais au lieu du tu au donateur et du je qui répond au don, on a l'inverse. Je, puis toute une série de tu. Conséquence, j'ai eu peur, je suis allé cacher. Sa description du maître correspond assez bien au portrait du riche qu'il est devenu par des malversations au détriment des autres. Mais ce maître-ci est d'une toute autre nature. Pourquoi lui ne l'a-t-il pas perçu? Il y a ce verbe tout à fait intéressant qui fait la différence. Savoir. Avoir appris quelque chose, être au courant, pouvoir affirmer. Je savais. Les autres ne savaient pas. Et ce qu'il sait ne correspond pas à la réalité. Il s'est fait une image du maître, comme nous nous faisons tous une image de Dieu. Sa représentation l'a empêché de reconnaître le don, de l'envisager même. Ce qu'il sait, ou plutôt ce qu'il croit savoir, est faux. Il a mal jugé son maître. Juger, la grande affaire. Le jugement nous colle à la peau. C'est un mauvais pli dont il est difficile de se débarrasser. C'est une prise de pouvoir sur l'autre. Un regard jugeant, une parole jugeante, bloque, paralyse, étouffe une relation. Et ce qui est terrible, c'est que nous le savons tous d'expérience. Le jugement dernier vient à la rescousse. Il a posé un interdit sur le jugement qui n'appartient qu'à Dieu seul. Ce n'est pas à nous de juger l'autre, ou soi-même d'ailleurs, dans une auto-accusation mortifère. À ce propos, j'aimerais vous laisser ce verset réconfortant dans 1 Jean 3, 19 à 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Revenons à notre troisième serviteur. Ce qu'il croit savoir de son maître lui fait peur. Et dans la peur, il est arrêté net. Il cache, il enfouit, il ne fait rien et le maître le traite de paresseux. Le serviteur méchant ou mauvais devient ici celui qui reste prisonnier de l'image qu'il s'est fabriquée de son Dieu. Elle le rend imperméable. Elle l'enferme. L'enfer, c'est peut-être l'enfermement. Le maître reprend alors ce raisonnement et le pousse jusqu'au bout. Le serviteur n'a même pas été conséquent avec sa logique. Démonstration de Matthieu 7, 1 et 2, que nous connaissons bien. Ne jugez point. Mieux traduit serait « Ne vous posez pas en juge, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ce serviteur la prend à ses dépens. Le voici en quelque sorte jugé par le juge imaginaire qu'il s'était forgé. Nous devons prendre garde aux ravages de notre propre imaginaire religieux. Avec cette fausse image, il fait fausse route. Il faut l'arrêter dans son parcours avant qu'il ne se perde davantage. Il n'a pas su profiter de son talent. Il ne lui sert donc à rien. Donc le maître le lui retire et le donne à celui qui sait le faire fructifier. Si nous ne sommes pas prêts, pour de multiples raisons, à nous approprier du don en « je », en notre identité propre, conserver le don ne nous sert à rien. Il reste stérile. Il nous est retiré. Il y a parfois des gains à perdre pour un dépouillement heureux. Le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les ténèbres du dehors. Par opposition à la lumière du dedans, comme en Éden? Parce qu'une situation similaire s'est déjà produite dans ce jardin, justement, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais à lire comme l'histoire du début de la relation de l'homme avec Dieu. On va s'y arrêter un instant après une pause musicale. Retour en Éden. Une fois qu'Adam et Ève ont enfreint l'interdit, trompés par le serpent, Dieu les a chassés du jardin. Là aussi, il fallait limiter les dégâts, car l'arbre de la vie, tiens, se dressait au milieu du jardin. Adam et Ève n'ont pas réalisé non plus ce qu'ils avaient reçu. Ils ont pris ce que Dieu ne leur avait pas donné, ce dont ils se croyaient privés, faussés par le serpent. Écoutez comment cela s'est passé, vous allez tout de suite faire le parallèle. Nous sommes dans Genèse 3, 9 et 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » En entendant la voix qu'il connaît, Adam lui met une attention cette fois-ci, car la honte est apparue entre-temps, et lui prête un jugement. Le même phénomène se produit, mais inversé. Le troisième serviteur n'a pas pris, mais il s'agit de la même erreur, c'est-à-dire ne pas croire que Dieu avait donné la vie en suffisance. Aucun jugement de Dieu pourtant sur Adam et Ève. Ce sont le serpent qui représente le mal et le sol qui sont maudits. L'homme et la femme entrent alors dans un temps qu'on pourrait qualifier de pleurs et de grincements de dents, pour reprendre l'expression de Matthieu. Un temps de rage, de désespoir impuissant quand ils réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix. Dorénavant, la nature pourra se montrer hostile. Le travail et l'enfantement se feront dans la peine et la souffrance. Mais Dieu ne les abandonne pas. Genèse 3, 21 à 23. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Je cite ici Marie Balmary qui a une compréhension intéressante de cette expulsion. La sanction est protectrice de l'être profond, une sortie d'un lieu dangereux pour le sujet. Fin de citation. Et c'est une autre aventure qui commence. Notez que ce n'est pas l'enfer pour ce premier couple, mais le chemin est semé d'embûches et il faudra lutter. Et nous sommes toujours sur ce chemin de lutte. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Ces paraboles sur le jugement dernier ne peuvent pas être des condamnations anticipées pour nous classer, ou pire encore, nous permettre de classer les gens dans des catégories d'élus et de non-élus, de sauvés et de perdus. Ce sont des avertissements pour notre croissance personnelle, pour l'aujourd'hui et le maintenant. Et au point où nous en sommes arrivés, nous sommes en mesure d'aboutir à cette conclusion. Il ne faut pas que les hommes entrent faussés dans l'éternité. Et notre Dieu, heureusement pour nous, y reste attentif, y veille, parce que nous ne voyons pas toujours le vent venir. Il ne faut pas que les hommes entrent faussés dans l'éternité.
Thank you.
Cette lecture différente a été pour moi une grande bouffée d'air frais, une découverte qui m'a réconciliée avec la fin de la parabole, parce que cohérente avec tout le message du Christ. Recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir aimer à notre tour, répondre à cet amour en actes et en paroles pour que le royaume gagne du terrain, que d'autres cœurs s'ouvrent à ce cadeau qui a une saveur d'éternité et un goût de joie. Faire attention à tout ce qui entrave ce parcours. Au jour du jugement dernier, nos œuvres seront mises en lumière par un juge juste, et celles qui ne résisteront pas au feu disparaîtront. Savoir ceci nous suffit. Ce moment de vérité ultime nous échappe totalement et ne nous appartient pas. Notre part à nous, c'est d'être réceptif aux dons et de nous engager dans cette voie. Je résume très brièvement. La parabole des talents nous invite à changer peut-être notre regard sur Dieu. Elle nous invite à recevoir et réaliser le don de la vie nouvelle. Elle nous invite à nous approprier de ce don en répondant par un je sujet, éveillé et conscient. Elle nous invite à être attentif à ce qui peut nous priver de ce don et de la joie divine qui l'accompagne. Ici, en l'occurrence, le jugement sur l'autre, qui nous fausse l'accès à la vie éternelle. Nous terminons par un petit examen de soi. La proposition de vie nouvelle en Christ nous est renouvelée chaque jour. Mais reconnaissons humblement que nous ne sommes pas toujours disposés à lui faire bon accueil. Voici comment parle Marion Muller-Collard dans son livre « Éclat d'évangile ». Sans aucun doute, la parabole du semeur est faite pour que chacun s'interroge. Je pourrais bien relire cette parabole tous les jours et chaque jour me sentir appartenir à l'une ou l'autre de ces terres. Aucun de ces milieux spirituels ne m'est étranger. Il est bien des endroits et des temps de ma vie où la parole tombe à côté de moi, sans même que je me désole de ce rendez-vous manqué. Il est bien des fois où la parole me traverse, me transporte, me saisit par sa clarté et où il me semble que je pourrais déplacer des montagnes. Mais si je devais admettre que j'ai mal dispensé mon énergie et ma volonté, que ma terre est restée ce sol caillouteux et pauvre dans lequel la parole ne peut grandir, alors demeurera quelque chose dans la parabole du semeur qui continuera de me réjouir. Le semeur, lui, n'arrête jamais de semer. Nos réceptions sont aléatoires, mais il est une chose que la parabole ne met pas en question, c'est la permanence du don. Je lui emprunte encore une courte prière. Ta lumière, mon Dieu, qu'elle brûle en moi tout ce qui ne la supporte pas, et qu'elle fasse rayonner ce que j'accomplis en ton nom, ma part de ton amour et ma part de ta joie. Voici arrivé au terme de ce que je tenais à vous partager. J'espère surtout que ces deux approches du jugement dernier, l'une en survol et l'autre sous la loupe, vous auront apporté réconfort et espérance. Les ouvrages qui m'ont accompagné sont la Bible, bien sûr, source inépuisable, Nous irons tous au paradis, de Daniel Marguerat et Marie Balmary, Abel ou la traversée de l'Éden, de Marie Balmary, et Éclat d'évangile de Marion Muller-Collard. Si vous avez des questions, vous pouvez sans autre les poser par le biais de l'adresse mail qui vous est donnée. Je vous remercie pour votre écoute si vous avez tenu jusqu'ici. Soyez bénis et fortifiés.